Jean, chapitre 17. Je suis resté à Jean 17. Hier soir, on a eu une visio avec Baltimore. D'habitude, on passe chez Belly chaque mardi soir avec l'église de Roumanie, où je traduis assez souvent. Hier soir, on a eu, parce que chez Belly n'était pas disponible, on a eu Pasteur Gary qui a prêché en Jean 17 sur le discipolat. J'ai approfondi un peu le sujet. J'entends un bruit, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Donc, je suis resté dans ma pensée, dans ma méditation en Jean 17, la prière de Jésus-Christ. Et juste de lire, relire cette histoire, cette prière de Jésus-Christ donnée ici par Jean, ça m'a vraiment béni et j'ai eu au cœur à partager avec vous. Donc, on va lire en Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. On va pas lire tous les passages, on va aller à quelques versets. Je crois que je vais m'arrêter ce soir sur 10 versets. Et pour voir 10 points différents dans la prière de Jésus-Christ, mais bien sûr qu'on peut trouver 30, je crois, mais on va juste prendre une dizaine. Mais ici, Jésus-Christ dit afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Maintenant, ici, c'est un sujet qui confuse beaucoup de chrétiens. Jésus-Christ donne la vie éternelle à ceux que Dieu le Père a donné à Christ. Et beaucoup de chrétiens comprennent pas pourquoi certains gens sont donnés à Christ et pas toute l'humanité. Pourquoi tous les gens sont pas donnés à Christ. Et le résultat, c'est que certains chrétiens croient que seulement un nombre de croyants, un nombre de gens sont appelés à avoir la vie éternelle selon le choix de Dieu. Mais le mystère est élucidé en Isaïe 46, verset 10, où Dieu dit, je connais la fin depuis le début. Ça veut dire que tout le monde est appelé au salut, mais tous ne sont pas choisis. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas intéressés au salut que Dieu offre. Dieu n'a pas enlevé le choix de l'homme, mais Dieu sait qui va recevoir la parole de Dieu, qui va être positif, qui va répondre à l'offre de Dieu au niveau de salut, et ces gens, Dieu donne à Christ. Judas, par exemple, a été choisi être un apôtre, et Dieu savait que Judas, il aurait refusé le salut, mais Dieu pourtant, il a choisi dans son plan pour avoir quelqu'un qui va trahir Jésus-Christ. C'est pas qu'il a été choisi pour aller en enfer, mais comme Dieu connaît le futur, il sait que tout ce que Dieu aurait fait, Judas aurait rejeté le don du salut. Et Dieu avait besoin de quelqu'un qui aurait rejeté de toute façon et dans sa position pour être celui qui va trahir Jésus-Christ. L'apôtre Paul a été choisi, il le dit, dans le ventre de sa mère. Jérémie aussi a été choisi dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste a été choisi dans le ventre de sa mère. Vous vous rappelez, sa maman, Élisabeth, a été remplie du Saint-Esprit quand Jean-Baptiste était dans le ventre de sa maman. Il a été choisi pour ce ministère, et tous ces gens ont été choisis pour ce ministère, parce que Dieu savait le futur. Il savait que ces gens auraient été dans le futur. Ils seront intéressés à l'offre de Dieu, l'offre du salut. C'est pour ça que Dieu les a appelés vers un ministère spécifique. Paul être apôtre, Jérémie prophète et Jean-Baptiste, celui qui aura annoncé la venue de Christ. Donc, parce que Dieu connaît le futur, il peut choisir ces gens pour des missions spécifiques et aussi il choisit chaque chrétien être un membre dans le corps du Christ. Et c'est dans ce sens-là, Jésus-Christ dit que il accorde la vie éternelle à tous ceux que Dieu le Père donne à Christ, parce que Dieu sait qui va recevoir le salut que Dieu offre. Et juste, ça me fait penser aussi ici que Christ nous donne la vie éternelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, la vie éternelle? Pas seulement une vie sans fin, mais aussi une qualité de vie dans la communion avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la Trinité. Et ça, c'est le mystère. Nous sommes inclus dans la communion de la Trinité. Est-ce que, je ne sais pas si vous vous rappelez votre vie avant le salut. J'ai été sauvé vers 19-20 ans. Et juste si vous pouvez vous projeter, vous imaginez quand vous n'étiez pas sauvé. Vous n'avez pas tout ce que vous avez maintenant. Bien sûr, il y a des milliers de choses qu'on peut penser. Qu'est-ce que ça veut dire le salut? Mais ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas le salut, eux, ils ont des vrais problèmes. Parfois, on est concentré sur les problèmes de la vie, mais nous, en réalité, on n'a pas vraiment de problèmes. Ceux qui ne sont pas sauvés, eux, ils ont des vrais problèmes. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas invité à être au milieu de la Trinité, dans la communion de la Trinité. Et juste de penser, qu'est-ce que ça veut dire la vie éternelle? Être avec Dieu pour éternité. On est sur cette terre, dans ce monde, pour quelques années, 20, 30, 40, 60, 120, mais imaginez-vous des milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années, pour l'éternité, pour infini des années. Après des millions et des millions d'années, on va encore être avec Dieu. Et ça, c'est extraordinaire de savoir qu'on a cette assurance, qu'on a cette promesse et assurance de Dieu. En continuant, verset 6, Jésus dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Et ici, Jésus dit, qu'il nous a donné, la parole du Père. Donc, nous avons la parole du Père et Christ, nous a aussi fait découvrir la parole du Père. Christ est aussi appelé la parole vivante. Et la parole, ça veut dire un processus de pensée, ça veut dire aussi une façon d'exprimer des valeurs. Les mots nous présentent aussi l'identité et le but de quelqu'un. En connaissant la parole de Dieu, nous connaissons comment Dieu pense. Quand quelqu'un ouvre sa bouche, très vite on connaît un peu comment cette personne pense, quelles sont les valeurs de cette personne selon les mots que cette personne utilise. Les mots qu'une personne exprime montrent un peu le but de cette personne. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. J'avais vu des années en arrière un reportage avec des femmes qui ont gagné le Miss Universe et les différents concours de beauté. Et c'était des femmes, bien sûr, très, très, très belles. Mais quand elles ouvraient la bouche pour dire des choses, c'était catastrophe. C'était terrible. Et ça montre que leurs pensées, ils n'ont pas beaucoup de choses là. Elles sont belles à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Récemment, en Roumanie, on a évangélisé dans la rue. Il y a quelques semaines, et j'ai rencontré des jeunes qui avaient 19-20 ans, mais ne savaient pas lier deux mots, parlaient comme des enfants qui ont 8 ans ou 9 ans. Et c'était des enfants, des jeunes qui avaient 19-20 ans, imaginez-vous. Et on voit que dans leur caractère, ils sont pas développés, ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas un processus de pensée développé. Et ça montre aussi qu'ils n'ont pas un but, vide à l'intérieur. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit comment il pense, on voit son caractère et son but. Et combien de gens, Jésus-Christ disait, combien de gens du passé auraient aimé voir et entendre ce que les disciples ont entendu de la bouche de Jésus-Christ, qui est venu découvrir davantage, au maximum, découvrir le Père, révéler le Père. Jean chapitre 1 dit que Jésus-Christ est venu pour nous interpréter ou traduire le Père. Et en écoutant Jésus-Christ, on connaît le caractère du Père d'une façon complète, plein air. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, on connaît le caractère et la pensée et le but du Père céleste jusqu'à un certain niveau, mais en Christ d'une façon complète. Christ, donc, est la parole du Père. Donc, en connaissant Christ, nous connaissons le Père céleste. Un verset, on revient un peu dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Et juste voir cette promesse qu'on a dans la prière de Christ, que le Père nous garde. Le Père nous garde dans son nom. Comment est-ce que le Père nous garde? Par l'adoption. Par la foi en Christ, nous sommes adoptés en tant que les enfants du Père. Et l'adoption, c'est irréversible. Et puis, on est placé dans la grâce du Père. En Christ, nous sommes dans la grâce du Père. En Christ, nous sommes placés dans un corps et nous sommes le corps de Christ. Et c'est aussi irréversible. C'est le Père qui a fait ça. C'est lui qui nous garde. Le Père nous a donné une nouvelle nature. Sa nature. C'est comme ça qu'il nous garde. Le Père nous a donné son Saint-Esprit. Être un avec nous. Pour jamais l'enlever. Il ne peut pas enlever son Saint-Esprit. Nous sommes un avec le Saint-Esprit. Notre esprit est devenu un avec le Saint-Esprit. Donc, Dieu, le Père, nous garde. 1 Corinthiens 10, 13, c'est écrit que le Père nous protège dans les épreuves. Et il y a des épreuves que si le Père permettrait que ces épreuves viennent vers nous, ces épreuves nous détruiront. Mais le Père permet pas que des épreuves viennent que selon notre capacité. Et si je tombe dans une épreuve, c'est parce que j'ai pas utilisé la provision qu'il m'a donnée, mais j'avais la capacité, j'ai la capacité pour l'épreuve dans laquelle le Père me place. Le Père jamais va permettre une épreuve qui vient vers moi, qui n'est pas selon ma capacité et selon la provision qu'il me donne pour traverser cette épreuve. Donc, le Père nous garde. Nous sommes gardés par le Père. En verset 13, Jésus dit, maintenant je viens à toi, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il aille en eux ma joie parfaite. Que nous avons sa joie, la joie du Christ et la joie du Père. La joie du Christ, c'est Hébreux 12, 2. C'est écrit que, pour la joie qui a été devant lui, devant Christ, il a subi la croix. Il a accepté la croix, on va dire, pas subi passivement, mais accepté d'une façon active. Il a accepté et embrassé la croix pour la joie qu'il regardait au-delà de l'autre de la croix. Derrière la croix, il nous voyait, nous. Et avec une grande joie, il est allé à la croix. En Zéphanie 3, 17, c'est écrit que nous sommes la joie du Père. Que le Père saute de joie, c'est écrit en hébreu, qu'il saute et crie de joie. Imaginez-vous, le Père saute et crie de joie en pensant à nous. Et en nous connaissant, quand on pense à nos vies, on n'est pas peut-être prêt à sauter de joie en pensant à nos vies. On se connaît chacun avec ses faiblesses, avec ses difficultés de choix et de vie. On se connaît et peut-être on n'est pas prêt à sauter de joie. Mais voilà, Seigneur, mais voilà, je suis là. Et je sais que tu t'es réjoui beaucoup de moi. Mais on n'a pas peut-être naturellement le courage de dire que le Père se réjouit de nous et saute de joie. Mais c'est ça que lui, il dit. Parce qu'il regarde pas comment nous vivons nos vies d'une façon expérimentel, donc il regarde pas nos échecs, nos péchés. Pourquoi il les regarde pas? Parce qu'à la croix, il a payé pour tout ça. Et la croix efface ça. Et le Père nous regarde maintenant, il voit Christ. Et parce qu'il voit Christ, l'œuvre de Christ à la croix et Christ en nous, le Père, il peut sauter de joie. Christ nous regarde et nous voit comme une grande joie son corps. Il nous voit son corps et sa mariée, son épouse. Donc nous sommes sa joie, nous sommes dans sa joie. Et sa joie en nous est parfaite. Nous recevons la joie de Dieu. Nous acceptons par la foi que Dieu se réjouit de nous pour qui nous sommes en Christ, pour l'œuvre que Christ a fait à la croix pour nous. Et verset 14, il continue, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et Christ nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Et en tant que nouveau chrétien, en lisant ça, on peut penser, si, je suis de ce monde, je suis né dans ce monde, et je pense comme dans ce monde, je suis très impliqué dans le monde. Et Christ nous révèle la nouvelle identité que nous avons reçue. Nous appartenons pas ici, nous appartenons dans les lieux célestes, dans sa présence. Nous avons reçu une nouvelle identité. Colossiens 3, de 1 à 3, c'est écrit qu'il faut qu'on pense aux choses célestes où on appartient. Nous appartenons dans les lieux célestes. Nous appartenons pas ici. Nous avons été transférés, Paul le dit, de ce monde. On a été placés en Christ. Un verset qui est un peu pas très facile à accepter dans le monde d'aujourd'hui, c'est 1 Timothée 6, 8. Et pour le chrétien charnel, c'est pas facile à accepter. Paul dit ici, si on a de la nourriture et des habits, soyons contents, ça suffit. Et j'ai dit ça une fois à l'école biblique, les étudiants n'étaient pas contents. J'ai dit, si on a la nourriture et des habits, aussi bien sûr un toit, une maison, que louer, que c'est voilà quelque part où on peut dormir, vivre, soyons contents. Ça suffit, pas besoin d'un compte en banque, pas besoin, je sais pas, de plein de richesses, de provisions, de ressources. Ça suffit pour être content. Et Paul révèle quelque chose, que notre maison est en haut et nos richesses sont en haut. Et c'est pas mal d'avoir un compte en banque, c'est pas mal de posséder une maison. Et bien sûr, il faut pas qu'on s'attache à ces choses, mais qu'on est attaché aux choses d'en haut. Et Jim Elliot, qui était missionnaire il y a une cinquantaine d'années et qui est mort en tant que martyr, il a dit, il est pas fou celui qui abandonne ce qu'il peut pas garder pour gagner ce qu'il peut pas perdre. Je répète. Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder. Donc ça veut dire quoi? On abandonne les choses de ce monde, choses qu'on ne peut pas garder. De toute façon, on va les perdre un jour. L'argent et les choses de ce monde, un jour on va les perdre. Au plus tard, au tombeau. Et pour gagner les choses qu'il ne peut pas perdre. Ça veut dire pas gagner les choses qu'il peut pas perdre. C'est pas le paradis il est gratuit, la vie éternelle elle est gratuite. Mais qu'est-ce qu'on peut gagner? On peut gagner des récompenses dans les lieux célestes. Et je peux penser à des gens qui, bien sûr vous aussi, mais aussi plein de gens que j'ai connus dans ma vie, des gens qui sont investis dans ma vie, très souvent financières aussi, et qui ont chercher les choses d'en haut et les choses éternelles, investir dans les choses éternelles. Et je peux m'imaginer quelle récompense ces gens vont avoir dans les lieux célestes, des montagnes d'or et de diamants. Et c'est ça que Jésus dit, nous ne sommes pas de ce monde, nous appartenons à un autre monde. Écrivain chrétien, Leonard Ravenhill. Il disait, aujourd'hui les chrétiens dépensent plus pour la nourriture pour les chiens que pour les missions. Et c'est une affirmation très triste et vraie. Beaucoup de chrétiens dépensent des sommes impressionnantes pour nourrir un chien, mais est-ce qu'ils dépenseront au moins la même somme pour la mission? La mission locale dans leur église, aider un frère, ou aussi, bien sûr, les missions internationales. Et un de nos pasteurs du Ghana, quand il est allé à la conférence en Amérique pour la première fois des années en arrière, pasteur John du Ghana, quand il a vu dans le magasin, un supermarché, un secteur entier juste de conserves pour des chiens, il a dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des gens qui dépensent ça? Il y a des gens qui donnent de l'argent pour ça? Il a été choqué. Il a dit, ben non, non, on n'achète pas quelque chose de spécial pour les chiens. Ce qui reste chez nous, on jette aux chiens. C'est comme si, sinon, s'il y a rien, ben les chiens meurent. Il était choqué que les gens dépensent la nourriture pour nourrir des chiens. Et quand je suis allé à Baltimore, j'avais essayé d'aller à Baltimore en 2004, mais j'ai pas reçu le visa et j'ai réalisé que j'étais pas prêt pour aller du tiers-monde où on gagnait 100 dollars, aller dans un pays un peu riche. Puis après, j'ai vécu à Londres 2 ans et puis après, je suis allé à Baltimore et j'étais un peu préparé. Mais on a fait un pique-nique avec la viande, un grill chez quelqu'un de l'église. Et lui, dans son basement, il avait sur un mur un grand écran. Imaginez-vous 3 mètres sur 3 mètres, un truc comme ça. Un écran télé avec une console, des jeux pour les enfants. Et quand j'ai regardé cet écran, je me suis dit, oh là là, ça c'est au moins 3-4 000 dollars. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent pour l'émission? Et si on pense comme quelqu'un du tiers-monde, c'est très facile à juger quelqu'un. Mais on ne sait pas si cette personne aussi dépense plus pour l'émission, parce que, bien sûr, j'imagine, il ne va pas se glorifier et vanter avec ça. Mais c'est très facile de juger les gens, combien on dépense pour ces choses. Mais Dieu seul voit, il ne faut pas que nous on juge, Dieu seul voit combien quelqu'un dépense aussi pour l'émission, combien quelqu'un dépense pour le ministère et pour la cause du Christ. Mais Jésus-Christ dit, nous appartenons pas à ce monde. Donc, quand on a cette attitude, même si on a les choses de ce monde, même si on est béni financièrement, on s'attache pas à ces choses du monde. Et on a la capacité à investir dans le royaume de Dieu, dans les choses d'en haut, parce que nous savons, nous appartenons pas ici. Nous avons une identité en haut dans les lieux célestes. Verset 15. Jésus dit, ils ne sont pas du monde, comme je suis pas du monde. Et, excusez-moi, j'ai mal écrit ici. Il prie, oui, c'est verset 15, pardon, j'ai pas bien lu. Je ne te prie pas de leur ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 15. Et Jésus-Christ, il prie pour notre protection et le Père nous garde. Richard Wurmbrand disait que dans une des prisons où il a été emprisonné, un de ces gars qui torturait des chrétiens, que Richard Wurmbrand a dit qu'il était possédé par un démon. Et ce démon a parlé à travers cette personne, et cette personne se parle, peut-être se rendait même pas compte que c'est le démon qui parlait. Mais comme, imaginez-vous, rappelez-vous, Judas a été possédé par le diable lui-même. Et ce qu'il parlait, ce qu'il faisait, c'était conduit par le diable lui-même. Et Richard Wurmbrand a discerné que ce gars qui torturait des chrétiens, il était possédé. Et ce monsieur, il a parlé, il a dit, nous ne sommes pas intéressés à vous tuer seulement. Nous voulons vous faire blasphémer votre Dieu et abandonner votre foi, abandonner votre confiance en votre Dieu. Jésus-Christ, il sait que nous ne sommes pas capables à lutter contre les démons en nous-mêmes. Et Dieu, bien sûr, le sait. Et le diable le sait. Nous ne sommes pas capables de lutter avec les démons. Et les tentations que le diable peut amener sont peser dans la main de Dieu avant que Dieu permette quelque chose. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu vérifie d'abord. Ok, ce démon, il veut amener quelle tentation? Ok, ça, bah, lui, il n'a pas une capacité. Je ne veux pas permettre ça. Il a besoin de grandir encore dans ce domaine. Un peu plus tard, peut-être. Mais aujourd'hui, non. Donc, dans la prière de Jésus-Christ, il révèle le fait que Dieu le Père nous garde dans, contre les attaques du diable. Et aussi, dans le fait de nous garder, le Père nous a équipés avec des armes, en Éphésiens 6, des armes luttées contre le mal. Dieu le Père nous a donné son Saint-Esprit qui nous conduit à lutter contre le mal. Mais nous avons cette confiance que Dieu le Père nous garde. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. On n'a pas à avoir peur. On ne devrait pas avoir peur des démons et du diable lui-même. Quand j'étais nouveau chrétien, ou même avant d'être chrétien, on avait peur des démons, on avait peur des fantômes, on avait peur de Satan. Mais le chrétien, il n'a pas à avoir peur. Parce que le Père nous garde. Et même si le diable lui-même vient en personne, visiblement et physiquement devant un de nous, nous, on n'a pas à avoir peur. Nous sommes gardés, selon la prière de Jésus-Christ, nous sommes gardés. Et le diable n'a aucune autorité. Et j'imagine que le diable, si, il semble que Martin Luther a eu ça, le diable est apparu physiquement devant lui, et lui, dans son lit, il a tourné sur l'autre côté, il a dit, ah, c'est juste toi, il a juste tourné de l'autre côté dans son lit pour dormir tranquille. Il semble que Dieu aurait permis ça juste pour prouver le diable, au diable. Je veux te prouver que lui, il a tellement confiance en moi qu'il n'a pas peur de toi. Il sait que je le garde. Il sait qu'il est dans ma main et personne ne peut l'arracher de ma main. Il sait mes promesses, il sait ma parole, il se confie dans ma parole. Et nous lisons cette promesse de Jésus-Christ, cette prière qui est une promesse pour nous, que le Père nous préserve du mal et nous savons qu'on n'a pas à avoir peur. Oh, mais l'Antichrist vient, mais regarde les signes dans le monde, mais regarde tout ce qui se passe, le 666, le signe sur le front ou sur la main qui est prêt, regarde tout ça. On s'en fiche, on n'a pas peur. Le Père nous garde du mal selon la prière du Christ. On n'a pas à avoir peur. Et on n'a pas aussi non plus à lutter contre les démons. Christ les a déjà vaincus à la croix. On n'a pas besoin de lutter pour les envoyer dans l'enfer. C'est pas notre boulot, ça c'est le boulot de Jésus-Christ qui va le faire au bon moment. On lutte contre les œuvres du mal. On ne lutte pas contre le mal lui-même. On ne lutte pas contre le diable lui faire du mal. On lutte contre les œuvres du diable. Et comment on fait ça? Par l'évangile, par la parole. En vivant avec Christ, nous détruisons les œuvres du mal. 1 Jean chapitre 3. Je crois que c'est verset 8, je me rappelle pas, mais Christ veut détruire les œuvres du diable à travers son corps. Christ, le corps de Christ et à travers sa parole. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, la parole et la vérité. Nous sommes mis à part. Sanctifier, ça veut dire mis à part. Et nous sommes sanctifiés par la parole de Christ. Nous appartenons à Christ. Et nous appartenons au Père Céleste. En lisant la parole de plus en plus, nous apprenons qu'est-ce que ça veut dire être mis à part. En méditant à la parole, nous sommes concentrés sur qu'est-ce que ça veut dire le but de Dieu pour nos vies et pourquoi on est mis à part, pour quel but, en quel but. Verset 18, Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Est-ce que nous pensons que la mission de Christ était importante quand il est venu dans le monde? Bien sûr. Le Père l'a envoyé. Il n'est pas venu de lui-même. Il n'est pas venu par accident. Il est venu avec un but spécifique, envoyé par le Père avec une mission spécifique. Le Père l'a envoyé. Donc, bien sûr que sa mission était très, très, très importante. Christ nous envoie avec le même type de mission. Très important. Nous sommes envoyés dans ce monde par Christ, être ses ambassadeurs, avec autorité, avec une provision, avec un message, avec un but, avec des récompenses. Ça nous rassure en lisant ça, la prière de Jésus-Christ, que nous avons aussi une mission de même façon que lui, il est venu avec une mission. Imaginez-vous quand Christ est venu dans le monde, il savait de ma mission dépend le salut à milliards et milliards de gens. Bien sûr qu'il savait que sa mission était importante. Et nous aussi, nous avons une mission. Et chacun selon son appel. Et notre mission est importante de même façon que la mission de Christ est importante. Bien sûr, avec une différente mission, mais on n'a pas la même mission que Christ. Il est venu mourir sur la croix. Chacun de nous est appelé à faire ça pour le salut des personnes. Mais nous avons aussi une mission de représenter Christ dans ce monde. En verset 20, Christ dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour Daniel qui va croire en moi par leur parole. Et là, bien sûr, vous pouvez mettre votre nom, chacun. Christ a prié pour ceux qui vont croire en lui par la parole des apôtres et des disciples. Et bien sûr, en réaction en chaîne qui arrive jusqu'à nous, Christ, dans sa prière, nous a inclus. Mon nom est là. Christ a prié pour moi. Au Zimbabwe, il y a des gens qui cherchent la prière des gens puissants. Très souvent, j'avais des gens en WhatsApp qui disaient « Pasteur, pasteur, prie pour moi. L'homme de Dieu, prie pour moi. » Et j'avais pas compris au début la culture là. Là, on croit que si on contacte beaucoup plus de pasteurs, surtout des pasteurs connus, voilà, je vais avoir une entrée dans la présence de Dieu à travers ces gens. En Roumanie, imaginez-vous les gens de culture orthodoxe, ils vont surtout dans les monastères où on pense qu'il y a des gens qui sont très 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 saints, très mis à part pour Dieu, qu'ils ont quitté ce monde et sont vraiment très 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 proches de Dieu. Donc ces gens qui sont très proches de Dieu, il y a beaucoup plus de chances que Dieu va les écouter. Et ils vont vers sept prêtres. Il y a cette pensée superstitieuse que si je vais vers sept prêtres, ils vont prier pour moi, ils vont avoir mon nom sur un papier là que je vais lui donner avec un peu d'argent. Et ces gens vont prier pour moi, mais il y a des chances que Dieu va m'écouter. Et c'est vrai que Dieu écoute certains gens plus que d'autres. C'est vrai. Quelle sorte de gens? Jésus a dit, ce type de démon sort seulement avec prière et le jeûne. Donc, bien sûr qu'on peut avoir autorité en prière quand on passe du temps avec Dieu dans la prière. Et le jeûne, c'est quoi? Jeûner, c'est être concentré sur Dieu, oublier un peu les choses de ce monde. Soit nourriture, soit télé, soit, je sais pas, les choses de ce monde. Et se concentrer sur Dieu et ne pas permettre à rien à détourner ma concentration, c'est ça le jeûne. Et 1 Jean chapitre 3, 21, c'est écrit que si nos cœurs nous condamnent pas, nous avons confiance que ce qu'on demande, Dieu va répondre. Aussi, Jacques chapitre 1, 1 Jean chapitre 5, verset 14, dit que si on demande selon sa volonté, il va répondre. Et bien sûr, il y a des gens à qui Dieu répond plus qu'à d'autres, parce que ces gens sont alignés avec la volonté de Dieu, ces gens passent beaucoup plus de temps dans la communion avec Dieu, bien sûr, c'est vrai, mais c'est pas juste un homme de Dieu qui prie pour moi. C'est plus qu'un homme de Dieu, c'est l'homme suprême qui est Christ. L'homme Dieu, Christ lui-même, il prie pour moi. Et bien sûr qu'aller vers les gens demander prière, c'est doctrinel. Jean le dit en chapitre 5, dit aller vers les anciens de l'Église. Donc surtout, il dit pas cherche les gens qui sont très spirituels. Il dit va vers le leadership de l'Église. Même s'il y a des gens dans l'Église qui sont plus spirituels que les leadership, va vers le leadership, les anciens. Pourquoi? Comme un signe de soumission vers l'autorité que Dieu a placée dans le corps du Christ. Et bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller aussi vers des frères et sœurs qui sont mûrs dans la foi et qui aiment Dieu pour demander la prière, bien sûr que non, mais on peut aller vers d'autres gens aussi, mais surtout dans ce contexte aussi, là il parle de guérison, en Jean chapitre 5, l'apôtre Jean dit « aller vers les anciens de l'Église ». Mais nous avons le privilège même au-delà des choses du monde, des gens du monde. Le privilège que Christ, l'homme Dieu, il intercède pour nous vers le Père. Il prie pour moi, par nom. Et dernier point que je vais donner, c'est verset 24. Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ça parle du fait que nous avons une place préparée. Ce que Jésus-Christ avait dit aussi aux disciples, quelques versets avant, il avait dit aux disciples, je vais aller vous préparer un endroit. Il nous prépare une place. Depuis 2000 ans déjà, il prépare une place. Rappelez-vous, dans 6 jours, Jésus-Christ, avec son Père, il a tout créé. Et depuis 2000 ans, il prépare une place pour nous. Personnalisée, selon les désirs de chacun, qu'il connaît le cœur de chacun. Il sait ce que couleur vous aimez. Il sait ce que vous aimeriez avoir dans votre maison, le style, le décor. Il sait. Et il prépare une place pour nous. Et en lisant la prière de Jésus-Christ, on est rassuré. Il nous prépare une place. Et je vais quand même juste encore un petit point ici, le verset avant, le verset 23. Jésus dit que afin que le monde connaisse que tu m'as que tu les aimes comme tu m'as aimé. Et ça, c'est un verset qui choque et que peut-être on serait prêt à et on est, si on est honnête, on le croit vraiment pas. On croit pas vraiment ce verset. Jésus dit que le Père nous aime de même façon qu'il aime Christ. Et comment je vais dire, attends, je peux pas accepter ça. Le Père m'aime de même façon qu'il aime Christ. Christ, il est parfait, moi je ne suis pas. Christ, il est éternel depuis l'éternité passée dans la présence du Père. Et moi je suis voilà nouveau venu et puis je ne suis pas Christ, loin de là. Non Seigneur, loin de là, comment tu peux dire ça? Bon, tu peux mais un peu voilà, mais pas à l'égalité de même façon avec même qualité d'amour, m'aimer comme tu aimes Christ. Et le Père dit oui. Même amour, même qualité d'amour. Bien sûr que au niveau de, il y a une différence dans l'amour où certains gens sont bien aimés. Pourquoi? Parce que il y a certains gens qui n'ont pas certains chrétiens qui n'ont pas fellowship, qui n'ont pas communion avec cet amour de Dieu, et on reçoit moins. Mais la qualité d'amour c'est la même. Dieu aime chacun de nous avec la même qualité d'amour inconditionnel. Est-ce que quelqu'un, est-ce que Paul est bien aimé par rapport en comparé avec Dimas en 2 Timothée 4, 10, qui a quitté Paul, qui a quitté le but éternel de la de vivre pour Christ. Dimas aussi il est aimé, mais il n'a pas communion maintenant avec cet amour inconditionnel de Dieu, mais Dieu l'aime quand même. Même s'il a abandonné l'appel. Donc, au niveau de qualité d'amour, on est tous aimés avec même amour inconditionnel éternel. Mais pas chaque chrétien reçoit la même, on va dire, quantité d'amour. Il y en a qui reçoit un verre, il y en a qui reçoit une piscine, il y en a qui reçoit un océan. Et on aimerait, nous aimerions grandir dans cet amour. En lisant ce verset ici, quand Dieu le Père nous dit qu'il nous aime comme il aime Christ, avec même qualité, ça veut dire que c'est pas un amour conditionnel. Ça veut dire que ça m'attire à recevoir cet amour. Ça m'attire à communier avec cet amour. 2 Corinthiens 5, 14, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous attire. L'amour de Christ nous découvre l'amour du Père, nous fait connaître l'amour du Père. Et ça nous approche, ça nous attire, ça nous encourage. Et c'est ça qui nous fait lever nos yeux vers les lieux célestes. Lever nos yeux vers l'identité que Dieu nous a donnée, vers l'appel que nous avons reçu, vers la mission que nous avons reçue, vers le fait que nous sommes gardés. Et c'est cet amour qui nous motive, c'est cet amour qui nous attire et qui nous motive. Et c'est ça, c'est toutes ces choses qu'on a lues et qu'on découvre à travers la prière de Christ. C'est ça qui fait que Pierre abandonne la pêche et suit Jésus-Christ, qui n'avait pas où placer sa tête pour dormir, qui n'avait pas un bureau, qui n'avait pas un compte en banque impressionnant. Il avait un compte en banque, mais c'était Judas qui gérait ça et qui volait pas mal, et Jésus-Christ le savait et n'a rien fait. Et c'est cet amour et ces choses qu'on vient d'étudier dans la prière de Jésus-Christ qui nous donne l'autorité spirituelle. En Actes 4, 13, les pharisiens, ils ont vu dans les apôtres, dans les disciples, une autorité qui venait pas d'une source naturelle. C'était des gens qui n'étaient pas éduqués, qui Pierre savait même pas écrire, lire, mais il avait une autorité et que les pharisiens discernaient que ça venait de Christ. Ils ont dit, attends, ces gens, ils ont été avec Christ. C'est pour ça qu'ils ont cette autorité qu'ils ont. En étudiant ces choses, et en pensant et méditant, comme on reçoit ces choses dans nos cœurs, on les chérit dans nos cœurs, c'est ça qui fait que on cherche plus les miracles. Un chrétien qui cherche les miracles, c'est un chrétien qui n'a pas découvert ce qu'il a en Christ. Il n'a pas étudié et médité sur cette prière de Jean 17. Thomas, après découvrir Christ, il n'avait plus besoin de miracles. Il n'avait plus besoin de toucher les mains de Christ et le côté de Christ. Et lui-même, Thomas, il est allé prêcher et devenir martyr en Inde. C'est cet amour et ces choses qu'on a reçues en Christ qui a fait que Paul a abandonné la position de pharisée, la reconnaissance qu'il avait devant le peuple juif, sa religion et toutes ses œuvres qu'il faisait pour Dieu. Il a tout abandonné, il les a appelées poubelles pour recevoir ce qu'on a en Christ. Et c'est ça qui fait que, en Acte 20, 24, Paul dit, toutes ces choses, toutes ces épreuves, toutes ces attaques, toutes ces difficultés de ce monde, tout ça, ça peut pas me bouger d'un centimètre. Je suis inébranlable, je peux pas être bougé parce que je suis établi en Christ, parce que je suis tenu par l'amour de Christ, je suis gardé par le Père, je suis planté, et édifié dans le corps du Christ. Je suis planté dans la grâce de Dieu, sans possibilité de tomber de là. J'ai un lieu céleste qui m'appartient, mon nom est écrit là, et c'est ça ma nouvelle identité. Donc, toutes les choses de ce monde ne peuvent pas me bouger. On ne peut pas me motiver. Je ne veux pas abandonner ça. Je ne veux pas vendre, recevoir, donner tellement énorme pour recevoir quoi? Une poubelle. Les choses de ce monde, c'est une poubelle. C'est pour ça que Moïse a dit, bah, les richesses de l'Égypte, c'est poubelle. Je préfère avoir être moqué pour Christ que d'avoir toutes les richesses d'Égypte. Et les richesses d'Égypte, elles semblent que c'était des milliards et des milliards de dollars dans l'argent d'aujourd'hui. Et Moïse a dit non. Tout ça, les milliards et milliards de l'Égypte, c'est poubelle parce que j'ai reçu quelque chose supérieur et éternel.